Alors maintenant, nous allons passer à la séquence finance avec deux élus de poids. D'abord, M. Georges Patient, qu'on ne présente plus, sénateur de Guyane et surtout spécialiste des finances des collectivités outre-mer et qui nous accompagne depuis de très nombreuses années. On va pas dire tous les vieux, hein, mais il nous accompagne depuis de très nombreuses années. M. Didier Laguerre, qui est le maire de Fort-de-France, mais qui est aussi membre du CFL, le Comité des Finances Locales.
Oui.
Et une spécialiste également des finances outre-mer, Madame Mireille Pierre-Louis, qui doit être dans la salle.
C'est exactement ce que je veux dire.
Madame Mireille Pierre-Louis. Ah voilà, elle arrive. Voilà, donc nous avons trois éminents spécialistes des finances outre-mer, finances locales. Madame, Monsieur, je vous laisse la parole.
Bien, rebonjour, rebonjour à tout le monde. On va essayer, on est sur un sujet un peu compliqué, on va essayer d'être, vu l'horaire, vu l'état de fatigue, d'être les plus courants et les plus factuels possibles. Alors moi, je vais parler de péréquation, je vais parler de dotation des communes d'outre-mer et je vais parler des clichés qui perdurent dans la représentation des finances locales. Et Georges Patient va nous parler du PLF. Un des clichés qui perdurent dans la représentation des finances locales, c'est, j'ai en face de moi Guillaume Veil, collaborateur du ministre, c'est cette idée que les collectivités d'outre-mer sont financées et bien financées. Le baromètre qui vous a été présenté est clair. Vous avez un problème d'épargne, c'est-à-dire de différence entre vos recettes et vos dépenses. Ce problème d'épargne qui touche l'ensemble des collectivités d'outre-mer ne pourrait pas se résumer à de la mauvaise gestion et à donc de l'incapacité de l'ensemble des élus que nous sommes à piloter des finances locales. Ça ne peut pas se résumer à ça. La réalité, l'État l'a reconnu il n'y a pas si longtemps, la réalité, c'est que nous avons des clichés sur ces recettes financières. Le premier d'entre eux, c'est la richesse des collectivités du fait de l'octroi de mer. En oubliant que cet octroi de mer est prélevé sur le territoire. Ça veut dire qu'une partie des recettes de nos collectivités est financée, non pas par des taxes locales, comme c'est le cas sur les autres collectivités, mais est financée aussi par la consommation, c'est-à-dire par l'octroi de mer. Ce qui ne se produit pas sur les communes de France. Cette recette octroi de mer étant comptée dans nos recettes, bien évidemment, les dotations qui sont accordées et les prééquations, en tenant compte, sont défavorables. Deuxième problématique et deuxième cliché, la non prise en compte des charges particulières liées, on l'a suffisamment dit ce matin, aux réalités des pays dits outre-mer, d'insularité, de réglementation, de risque, de développement économique insuffisant et donc de problématiques d'emploi. Le résultat, c'est que nous avons, sur nos territoires, dans nos pays d'outre-mer, nous avons des problèmes financiers aigus qui aujourd'hui limitent, obèrent la capacité d'investissement de nos collectivités. Et obèrent la capacité de nos collectivités à accéder au financement bancaire, ce qui conduit la Cour des comptes à parler de 84% des communes outre-mer en grande difficulté financière. Alors les choses ont évolué, les choses évoluent, puisqu'une réforme de la DACOM a été mise en œuvre depuis 2019, grâce au rapport du sénateur Patient et du député Jean-René Cazeneuve, deuxième rapport du sénateur Patient sur la question, et sur la question de l'équité des dotations versées aux collectivités outre-mer, il y avait déjà un premier rapport en 2014 qui avait pointé du doigt ce problème d'équité. Et c'est un problème fondamental. Cette réforme de la DACOM a été initiée par le gouvernement, l'ancien gouvernement, en 2019, actuel président de la République, mais cette réforme de la DACOM a pris en compte dans les recettes des collectivités outre-mer l'octroi de mer. Et donc on a une réforme qui est calibrée à 85 millions d'euros, lorsque sans prise en compte de l'octroi de mer, elle aurait dû être calibrée à 200 millions d'euros. Et lorsque le ministre nous parle ce matin d'une augmentation de la DACOM de 150 millions d'euros, on prend en compte l'augmentation naturelle de cette enveloppe et on lui rajoute l'effort fait par l'État pour procéder à la correction. Mais en réalité, même en prenant 150 millions d'euros, on n'atteint pas le montant de 200 millions d'euros annuels. Deuxième chose, nous avons, il faut le reconnaître, je suis assez cash dans mon approche des choses et assez pragmatique. Et j'ai bien aimé les interventions du ministre qui faisaient référence aux équations mathématiques. Je suis physicien de formation. Je vais droit au bout. Dans la réforme de la DACOM, enfin a été prise en compte les charges de centralité que vivent nos villes capitales dans nos différents pays. Charges de centralité qui, jusque-là, n'étaient pas prises en compte. Et donc, toutes les charges que nous avons à assumer en tant que capitale de ces différents territoires ne sont pas prises en compte dans la péréquation de la DACOM. Le résultat, c'est que vous avez encore une fois des collectivités, des communes qui sont structurellement sous-financées, malgré les efforts importants qui sont donnés pour créer des emplois. Et donc, dans la dernière réforme de la DACOM, a été intégrée une fraction de l'augmentation de la DACOM fléchée sur les villes capitales et les sous-préfectures d'arrondissement de l'ensemble des territoires d'outre-mer. Reste un travail important à faire sur l'équité de ces péréquations pour que les problématiques différentes de nos territoires soient prises en compte et que, comme l'indiquait le professeur Legidé, on ne confonde pas l'égalité et l'uniformité. Et donc c'est un travail que nous devons mener, que je mène personnellement au sein du comité des finances locales. C'est un travail qu'il faut mener aussi au niveau de l'association des maires de France et au niveau du Parlement, Assemblée nationale et Sénat. Parce que c'est au prix de ce rétablissement des financements structurels de nos collectivités, je prendrai un avant-dernier exemple et après je suis pour la parole au sénateur Patient. Lorsque vous comparez la réalité de nos situations financières, lorsque vous comparez la réalité de nos charges financières avec ce qui se passe dans les communes de la Seine-Saint-Denis, ben vous vous rendrez compte que les charges sont à peu près similaires, mais que dans les communes de Seine-Saint-Denis, on ne va pas prendre en compte les dotations de péréquation liées à la péréquation régionale dans les recettes financières de ces collectivités. Et à partir de là, eh bien, elles ont accès à une dotation globale de fonctionnement qui est équivalente à celle des autres communes et donc qui permet de compenser les difficultés structurelles similaires aux nôtres, hein, de taux de chômage important, de taux de pauvreté important sur les territoires. Et donc, il les ramène à un niveau de financement similaire, avec une différence de traitement, certes, mais une différence de traitement qui tend à rétablir de l'égalité des citoyens face aux collectivités. Et c'est l'enjeu que nous avons devant nous dans les collectivités d'outre-mer. Et dernier exemple de ce sous-financement structurel et de cette vision et de ce modèle qu'il nous faut faire évoluer et de ces clichés qu'il faut faire évoluer, c'est la question de la péréquation pour les intercommunalités. Ici, on est association de communes et collectivités d'outre-mer. L'ensemble des EPCI d'outre-mer va contribuer à un fonds de péréquation qui va ensuite être réparti pour les EPCI les plus en difficulté de l'ensemble de la République française. Nous contribuons sur un modèle normal, on va dire, le droit commun, et lors de la répartition, on crée une enveloppe outre-mer, et on va créer une péréquation au sein de cette enveloppe outre-mer. Le résultat, c'est que des EPCI d'outre-mer, qui sont autant, voire plus en difficulté que des EPCI français, vont être exclus de la répartition. La perte de financement pour l'ensemble des Outre-mer représente une trentaine de millions d'euros par an. Et quand vous cumulez l'ensemble de ces problématiques, quand vous cumulez la contribution au redressement des comptes publics, et donc les prélèvements qui ont été faits sur nos dotations, qui n'ont pas été compensés pour les communes en difficulté, ce qui a été le cas sur l'ensemble français, quand vous cumulez l'ensemble de ces pertes de recettes, donc, vous avez un début d'explication sur les difficultés financières et sur les difficultés à dégager de l'épargne nette, sur les difficultés à dégager de l'épargne brute et donc sur les difficultés à financer des investissements au profit des populations, au profit des concitoyens et des investissements qui puissent être porteurs de développement économique, de cohésion sociale et de cohésion territoriale. Et on comprend comment, en tout cas moi, je comprends comment les problématiques financières et les questions financières se traduisent sur notre développement et sur notre capacité d'action. Et c'est pour ça que je milite pour que nous, élus d'outre-mer, nous nous saisissions de ces questions financières, mais je milite aussi pour que l'AMF et l'ensemble des associations françaises de collectivités accompagnent les collectivités d'outre-mer dans ce dialogue difficile, mais intéressant et fructueux avec l'État sur le rééquilibrage des finances des collectivités d'outre-mer. Voilà le message que je veux porter et voilà le combat que je mène au CFL, mais aussi dans l'ensemble des institutions auxquelles je participe. Et sur le coup, je passe la parole à Georges Carson.
Didier a tout dit. Hein. Après lui, mais difficile d'intervenir. Bon, je tiens à le saluer parce que cet enthousiasme qu'il a à défendre nos intérêts sur le plan des finances locales, il le garde, il l'exprime de façon soutenue au sein du comité des finances locales, qui, vous le savez, est l'organe quasiment central décisionnel en matière de répartition des finances locales. Et ce n'est pas une tâche facile. Quand on est membre du CFL, on représente les Outre-mer, on est quasiment seul pour représenter les 215 communes des DOM, alors qu'en face, on a quasiment 36 000 communes de l'Hexagone, qui toutes pensent que quand l'Outre-mer gagne un centime, c'est un centime qui est pris aux communes de l'Hexagone. Donc ce n'est pas une tâche évidente. Avant Didier, j'étais également membre du CFL, c'est pour ça que j'en parle. Alors, après avoir entendu Didier, après son analyse exhaustive de notre situation financière préoccupante, toujours préoccupante dans les Outre-mer, en ma qualité de parlementaire, il ne reste plus maintenant qu'à voir quels sont les amendements que je vais avoir à déposer au Sénat, parce qu'on est en pleine discussion budgétaire. Le PLF 2023 est passé à l'Assemblée nationale, donc après le 49.3. Donc il va me rester à voir quels sont les amendements que je pourrais déposer et quels sont les amendements que Guillaume, qui est juste en face de moi, du ministère des Outre-mer, voudra bien faire passer au gouvernement. Donc c'est un travail que je fais régulièrement, on en a beaucoup discuté, nous étions assis tous les trois ensemble, il a pris beaucoup de notes et je pense que ça ira mieux que ça ne l'est jusqu'à maintenant. Parce que jusqu'à maintenant, après passage à l'Assemblée nationale, il n'y a pas grand-chose, pour ne pas dire rien concernant les Outre-mer. Alors donc, l'examen des textes financiers en 2022, je retiens quand même au PLFR 2022, passé au mois d'août, et ça je crois pas que l'État ou le gouvernement ait fait une grande duplicité, le filet de sécurité inflation. Je ne sais pas si dans la salle vous en avez entendu parler, mais c'est une dotation qui viendra aider les communes financières les plus graves, les plus impactées financièrement, sur la base de leur situation financière en 2021 et leur situation financière en 2022. C'est un montant de 420 millions d'euros que l'État met à disposition de ces communes. Et bien sûr, les communes des Outre-mer sont concernées. Il y a une liste qui a été communiquée tout récemment par Bercy. Je crois savoir que 8 communes réunionnaises sont concernées, 4 pour Mayotte, 11 pour la Guyane, 15 pour la Guadeloupe et 18 pour la Martinique. Je sais que Didier, on est informé, parce que ce matin, quand le ministre en a parlé, j'ai vu qu'il a secoué la tête, mais pour avoir interrogé d'autres communes qui sont concernées, cette information n'a pas été faite comme elle aurait dû faire. Alors, je vous incite à vous renseigner auprès de vos DRP, qui ont pour mission justement d'apporter un appui technique à ces communes. Je ne vais pas vous lire la liste des communes concernées, je pourrais vous les donner après la séance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une dotation qui va être versée en 2023 et il était prévu un acompte dès 2022, mais à condition que le dossier soit déposé le 15 novembre, je crois que ça veut dire dans 2 jours. Donc, renseignez-vous, parce que sur les 129 communes des Drôme, hein, c'est les Drôme qui sont concernées, 48 sont potentiellement concernées, selon la liste établie par Bercy. Donc, renseignez-vous vite, c'est une dotation qui ne sera pas à rembourser, mais qui vous est due en raison de votre situation financière impactée. La question aussi des communes pour Rome s'est posée ce matin, parce que, bah, effectivement, dans leur opération de redressement, elles ont une amélioration de leur compte. Et là, effectivement, quand on regarde la liste, on prend le cas de la Guyane, parce que c'est les communes Corom en Guyane, il y en a une qui est exclue, alors qu'elle a une situation financière très difficile. J'ai pris des renseignements, et il semblerait, avec certitude presque, que ces communes Corom seront d'office éligibles à ce filet de sécurité inflation. J'ai eu l'information ce matin. On verra. Ce ne serait pas normal qu'elle n'en bénéficie pas. Alors, autre mesure prise là dans le PLF 2023, c'est le redressement des comptes publics. Mais bon, ça intéresse surtout les communes dont le budget dépasse 40 millions d'euros. Peu de communes d'outre-mer sont concernées, mais les grosses collectivités le seront. C'est l'augmentation des dépenses qui ne devrait pas dépasser 0,5% de l'inflation. Bon, ça, l'AMF aussi a critiqué cette disposition. Elle sera débattue à l'Assemblée nationale. On verra. Je ne peux rien vous dire pour l'instant. Dans le PLF 2023 aussi, bon, Didier en a parlé, c'est la phase finale, la dernière étape du rattrapage au niveau de la péréquation. Bon, à l'époque, on avait arrêté un montant de 55 millions d'euros, mais dans le rapport que j'ai fourni avec Jean-René Cazeneuve, qui, je signale au passage, est maintenant président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, poste incontournable au niveau des amendements, donc il ne peut pas renier. Il est rapporteur général du budget. Et c'est lui qui a fait ce rapport avec moi. Donc toutes ces questions, il les connaît, donc c'est le bon moment pour faire passer les amendements. Donc je rappelle qu'à l'époque, le CFL a arrêté le montant du rattrapage à 55 millions d'euros, alors que l'estimation qui avait été faite par le ministère des Outre-mer le portait à 165 millions d'euros. Simplement, comme l'a dit Didier, on l'a fait avec le droit de mer. Donc le FIC, les 30 millions, il en a parlé, donc je ne vais pas insister, mais bon, je déposerai un amendement aussi, hein, pour que un engagement pris par le président de la République soit respecté. il a été respecté pour la DACOM, il faudrait qu'il le soit aussi pour le FPIC. Donc je vais présenter un amendement. Bonus de centralité. J'ai vu qu'il y avait des discussions sur cette question. Trois villes capitales sur six seraient désavantagées. C'est une discussion à avoir. Je sais qu'un amendement se prépare. Il faudra qu'on voit. Dans ce PLF 2023, il y a également un certain nombre de dispositions fiscales qui sont contenues déjà ou qui vont être débattues dans ce PLF et qui vont également impacter les Outre-mer. Il y a la suppression de la CVAE, contribution à la valeur ajoutée de l'entreprise. Il se pose également la question de la réintégration des dépenses d'acquisition et d'aménagement des terrains dans l'assiette du FCTVA. La revalorisation annuelle des bases fiscales, quel taux va être adopté, la prolongation des diverses exonérations de longue durée, 15-20 ans accordées aux logements sociaux, ou conventionnés jusqu'en 2026, s'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, une taxe qui est dévolue en partie aux communes. Alors, même si des compensations sont prévues, on sait que pour les Outre-mer, le calcul est minoré par rapport à son potentiel du fait des enjeux particuliers de ces territoires qui ont une dynamique différente. C'était le cas pour la taxe d'habitation. On sait que les communes d'outre-mer sont défavorisées dans ce domaine. J'avais demandé à l'époque qu'un groupe de travail soit créé pour qu'un travail spécifique avec les ultramarins soit fait quand il y a des dispositions fiscales. Bon. Il semblerait qu'il y ait un rapport qui a été fait, mais il n'a pas été communiqué. Moi, je ne l'ai pas eu. On ne l'a pas donné, tu vois. Donc, il y a peut-être des secrets à ne pas communiquer aussi, quand même. Alors, il y a un point dont je voulais parler. Le ministre en a parlé, Didier aussi. C'est un point qui ne figure pas dans le PLF 2023, mais qui est dans l'air du temps. Je suis certain qu'on y arrivera. Et très vite, c'est l'octroi de mer. Le ministre a parlé de refonte. Je sais qu'au niveau du gouvernement, on parlerait de suppression. Je ne sais pas si je suis provocateur, mais bon, je ne vais pas lire quand même ce qu'il y a de marqué sur la feuille de route du ministre, il en a parlé, mais on a l'impression que c'est la chronique du mort annoncé. Bon, je tiens à rappeler quand même que l'octroi de mer, c'est la ressource la plus importante pour la ressource de fonctionnement la plus importante pour les communes d'outre-mer. À titre d'illustration, bon, c'est les chiffres de 2018, mais bon, l'octroi de mer représentait 215 millions pour la Guadeloupe, 87 millions de DGF, 145 millions pour la Guyane, contre 61 millions de DGF. 332 millions pour la Réunion contre 165 millions de DGF, 209 millions pour la Martinique contre 81 millions de DGF et 70,7 millions pour Mayotte contre 61 millions de DGF. Donc grande vigilance, je pense que bon, on a parlé de concertation avec les élus locaux, il faudra faire très attention. Parce que bon, le droit de mer, c'est quand même un impôt local, c'est la fiscalité directe, avec un pouvoir quand même laissé encore aux collectivités locales. S'il faut remplacer le droit de mer par la TVA, qui est un impôt d'État, on sait très bien qu'il y aura peut-être une compensation la première année, mais les années suivantes, il n'y aura pas de compensation. Donc il faut qu'on soit très vigilant, parce que cette ressource, comme je le dis, est très très importante pour les collectivités, pour l'outre-mer. Plutôt que de traiter de cette question de l'octroi de mer, peut-être aurait-il mieux fallu que rapidement. L'on pense à des dotations d'ultra-périphéricité pour les communes d'outre-mer qui pourraient régler plus rapidement leurs déficits structurels. Le ministre a reconnu la contribution au redressement des finances publiques. A beaucoup pénalisé, il a reconnu, a beaucoup aggravé la situation financière des communes d'outre-mer. Mireille, qui a mes côtés, vous en parlera tout à l'heure. C'est quasiment en cumulé 400 millions d'euros qu'ont perdu les communes des Drôme dans cette période de redressement des finances publiques. on pourrait peut-être utiliser toutes les sommes non consommées au niveau du ministère des Outre-mer et faire une dotation pour permettre à certaines collectivités de régler leurs factures, de réduire les délais d'impayés, de payer les entreprises, de faire en sorte que bon, la situation s'améliore globalement dans nos Outre-mer. Là, je finis en fixant Guillaume en lui disant que bon, les amendements sont prêts, je repars demain sur Paris, je crois que lui part ce soir, on se reverra au ministère des Outre-mer. Merci.
Je vais faire quelques points comme ça, rapidement. Alors, on est dans une période de programmation de finances publiques de 2023 à 2027 où l'État doit fixer ses objectifs d'économie pour respecter les critères de Maastricht. La France a un déficit qui représente 6% du PIB, donc la France doit mettre en place un programme d'économie. Alors, pendant la période 2014-2017, cette période est catastrophique pour les DOM parce qu'il y a une constitution d'aide de dotation et qui n'a pas été compensée par une péréquation insuffisante. Donc du coup, les communes d'outre-mer supportent un déficit de 400 millions d'euros. Alors, j'ai l'impression que ces 400 millions d'euros sont une sorte d'angle mort. L'État, très utile sur nationale, toutes, on considère que le seul problème des communes d'outre-mer, c'est leur charge personnelle. Or, le rapport PASS a montré que, en dehors de la prime de vie toute chère, les charges sont égales. Et donc ça veut dire que. Et en plus, tous les pics de recrutement qu'il y a dans les DOM, c'est des pics de contrats aidés, donc des contrats financés par l'État. Donc la situation des sur-effectifs des communes d'outre-mer actuellement est le fruit d'une politique nationale, notamment sociale du chômage. Donc l'État devrait accompagner davantage les communes. Alors elle accompagne les communes, notamment à travers le quorum, avec 30 millions d'euros, mais à cause d'une péréquation inéquitable, on a perdu 400 millions d'euros. Donc en fait, les 30 millions d'euros, c'est une goutte d'eau. Donc il n'y aura pas d'amélioration. Ça, peut-être au niveau des chiffres, on va toujours trouver des chiffres qui montrent que les choses s'améliorent. Mais en Martinique, en tout cas, on se rend bien compte qu'on descend d'un palier chaque jour. Et on le fait notamment à travers la délinquance. Donc maintenant, il y aura une nouvelle programmation de 2023 à 2027. Et comme le disait cette intervention, seules les collectivités de plus de 40 millions d'euros seront impactées. Mais notamment le conseil départemental de Mayotte. Or, on se demande pourquoi il n'y a pas d'exemption pour l'outre-mer face aux défis qu'ils rencontrent, mais ne serait-ce que par rapport à Mayotte. À Mayotte, la part des dépenses publiques dans le PIB représente 30% contre 60% au niveau national. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de dépenses publiques à Mayotte. Donc quand on fait la collectivité départementale réduire ses investissements pour améliorer les chiffres de la France, complètement, à mon avis, ça n'a pas été évalué parce que entre 2004 et 2017, on avait exempté Mayotte. Mais là, je n'ai pas entendu parler d'exemption pour l'outre-mer. Alors, ah oui, dernière chose, donc l'octroi de mer. Alors, l'octroi de mer a toujours été convoité par Bercy, notamment pour enlever la barrière en fait, entre les Hexagone et les DOM, et permettre aux produits d'arriver plus facilement, etc. Mais il y a d'autres enjeux pour Bercy. C'est que, en fait, dans son programme de réduction d'économie que la France va présenter à Bruxelles. Dans ce programme d'économie, il y a la baisse des dépenses fiscales. Et le rapport, et la Cour des comptes a fait un rapport il y a 4 mois, et le sénateur Passion a fait un petit contre-rapport, par rapport à ce rapport, où on dit que dans l'outre-mer, il y a 6,5 milliards d'euros de dépenses fiscales de l'État et qu'elles sont inefficaces. Alors, elles sont inefficaces, pourquoi? Parce qu'en fait, Bercy cherche des dépenses inefficaces à supprimer et pour donner des gages à la Commission européenne. Donc, en fait, c'est par rapport à des objectifs exogènes de la France qu'on risque de nous appliquer une mesure de suppression de l'octroi de mer. Or, cette repo est nécessaire d'une façon générale. Au niveau de l'outre-mer, nous subissons la double peine. D'une part, on subit toutes les économies de la France du droit commun, et en plus, on subit toute une série d'économies ciblées. Donc ça peut être l'octroi de mer, ça peut être l'impôt sur le revenu, ça peut être la taxe carburant. Il y a toute une série, alors comme c'est une situation sociale catastrophique, il y a toute une série de menaces qui arrivent et qui sont liées à la stratégie macroéconomique de la France.
Merci donc à deux trois intervenants. On va passer tout de suite aux questions. Il y a de Sophie Charles.
Merci, bonjour à tous. Alors moi j'aurais une première remarque, c'est sur les difficultés de l'inflation dont a parlé M. Georges Patient, pour avoir la compte ou bénéficier de ça, il y a trois ratios. Il faut répondre à trois ratios. Et je pense que pour avoir les. Et c'est pas un des trois ratios, c'est les trois ratios ensemble. Et finalement, ça exclut beaucoup de collectivités. Donc peut-être qu'il y aurait une révision à avoir à demander à ce que ce soit un des trois ratios et non pas les trois ratios. Parce qu'il me semble que c'est une baisse de moins de 25% de la CAF nette de l'année précédente. Enfin, il y a plusieurs ratios comme ça. Je crois que là, il y a un sujet parce que ça exclut beaucoup de collectivités qui essaient de bien gérer leur saison et je pense que là, on est un peu désavantagé. Deuxièmement, sur le PLF 2023, moi j'aimerais bien comprendre, parce que j'ai cru entendre que pour les collectivités qui auraient un budget de plus de 40 millions d'euros en fonctionnement, eh bien elles devraient contractualiser avec l'État. Et j'aimerais savoir si c'est effectivement le cas, parce que si c'est effectivement le cas, j'ai l'impression qu'on se retrouve sous tutelle. Alors ça me dérange un petit peu. Je ne sais pas si c'est une contractualisation obligatoire ou pas, mais c'est ce que j'avais lu moi en filigrane dans le PLF 2023. Alors peut-être que je me suis trompée.
Qui veut apporter une précision, Jean?
Sur la première question, juste pour indiquer qu'il y a deux filets de sécurité. Un premier au PLFR 22, c'est le filet inflation, avec les trois critères. Ce filet est éligible, d'ailleurs j'ai cité le nombre de communes qui étaient éligibles, parce qu'il y a les dépenses d'énergie, les dépenses alimentaires, et également la hausse liée au prix, à l'indice de la fonction publique. Il y a un second filet de sécurité, celui-là est dans le PLF 2023, mais qui ne va porter que sur les dépenses d'énergie. Effectivement, il y a ce problème de critères qui peut exclure un certain nombre de communes, mais je sais qu'il y a un débat sur cette question. L'AMF a réagi sur cette question. Bon, je me suis renseigné encore ce matin, je sais qu'au Sénat en reviendra, on ouvrira peut-être davantage de communes, parce que d'après les premières estimations, c'est un montant de 1,5 milliard, mais on pense qu'en fonction des critères arrêtés, ce montant ne sera pas consommé. Donc le Sénat essaie de revoir et faire en sorte que davantage de communes soient éligibles. Donc voilà ce que je peux répondre sur la première question. Sur la deuxième question, bon, comme disait mon collègue Laguerre, bon, c'est peut-être une réplique du contrat de Cahors, mais je n'ai pas de renseignements plus précis à ajouter. Je ne sais pas s'il y aura une contractualisation, Sophie ne fait pas plus allusion au CCT, au contrat qui seront passés entre l'État et les collectivités.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Une réponse alors.
Bonjour à tous, je suis un peu obligé de répondre. Pour le compte du ministre, en reprenant aussi les éléments qu'il a dit tout à l'heure, qui sont des discussions qu'on a depuis longtemps et puis fréquemment avec vous. Premièrement, sur le sujet des recettes des collectivités d'outre-mer, je pense aussi, de façon générale avant tout, c'est important, le ministre l'a dit tout à l'heure, qu'on soit conscient collectivement pour l'amélioration des finances locales ultramarines. Chacun doit prendre sa part de responsabilité. Et comme toujours, dans les situations qui sont complexes à résoudre, les responsabilités sont à plusieurs endroits. Et les leviers sont multiples pour le redresser. En ce qui concerne les recettes, le ministre l'a reconnu, côté État, il y a eu une responsabilité dans la contribution au redressement des finances publiques, qui était avant 2017, qui effectivement a particulièrement pénalisé les collectivités d'outre-mer. Donc ça a été reconnu par le président Macron, ça a été d'ailleurs souligné par vous tous, le consensus. Cela dit, l'inflexion de la DACOM, elle a commencé en 2016 en net, 2016 c'était le point bas de la DGF pour les collectivités d'outre-mer. Depuis 2016, c'est plus 150 millions sur la DACOM, ça inclut le rattrapage. C'est quand même du côté de l'État une reconnaissance forte et pour vos finances, c'est 150 millions d'euros de plus dans les caisses, global. Donc c'est assez considérable. Une fois qu'on s'est dit ça, pour la suite, nous on vous l'a dit, on pense du côté du ministère des Outre-mer, qui est un sujet de péréquation qui mérite d'être regardé, qui mérite d'être expertisé pour faire bénéficier les collectivités d'outre-mer de davantage de péréquation. On ne peut pas non plus balayer d'un revers de main la recette de l'octroi de mer. Le sénateur Patient l'a rappelé, ce sont des montants qui sont importants, c'est 2 à 3 fois plus que la DGF selon les territoires. On ne peut pas faire comme si cette recette n'était pas dans votre panier de ressources. Il y a calculé la DGF sans prendre en compte l'octroi de mer. Il y a un équilibre qui a trouvé entre plus de 100 millions d'euros dont vous parliez, la situation actuelle. Quand je dis qu'il a trouvé, il y a aussi à négocier avec l'ensemble des collectivités françaises, comme vous l'avez aussi dit. Mais voilà, je pense dire qu'il y a un manque de 200 millions d'euros de recettes, on ne pourra pas l'endosser. Encore une fois, parce que c'est faire abstraction de l'octroi de mer, qui est en moyenne 30% de vos recettes, et qu'on doit prendre en compte dans l'équilibre financier. Quand je dis que chacun en prend sa part, vous l'avez dit aussi, on ne peut pas non plus balayer d'un revers de main, vous l'avez reconnu, vous faites aussi dans votre commune, la question de la gestion. C'est-à-dire, beaucoup de communes d'outre-mer sont engagées dans cette démarche à faire des économies sur cette action de fonctionnement. On sait que c'est difficile, parce qu'on sait aussi que vous avez beaucoup de contraintes liées au chômage plus élevé dans les territoires, donc beaucoup de demandes d'emploi public. Voilà. Mais c'est aussi un chantier que beaucoup d'entre vous s'emparent avec courage et qu'on peut que vous encourager à poursuivre. Parce que, pas bien sorcier pour un budgétaire, c'est-à-dire que pour améliorer sa situation, il faut un peu plus de recettes, un peu moins de dépenses. C'est aussi simple que ça. Et on joue sur les deux tableaux. En ce qui concerne le filet de sécurité, alors un petit mot. Alors déjà, pour l'outre-mer, il y a un filet de sécurité naturel. Ça a été aussi dit par le ministre. Les recettes d'octroi de mer sont en forte progression cette année. Ça varie selon les territoires, mais on a plus 11% par rapport à l'an dernier. Ça, les collectivités de l'Hexagone, elles ne l'ont pas. Cette ressource qui permet d'absorber, ou en partie, et surtout, plus élevée que l'inflation, 11%, on appelle l'inflation 11%. Donc voilà, ça vous aide quand même tous beaucoup. En ce qui concerne ce qui se passe en ce moment, c'est l'ACOMS qu'on vous demande de solliciter, enfin que Bercy vous demande de solliciter. Bien entendu, il y aura une vérité des prix qui sera faite en 2023 quand on aura les comptes définitifs de vous tous. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas eu l'ACOMS là, si on s'aperçoit au moment des comptes définitifs, on aura bien sûr le 15 mars, si tout le monde les rend dans le temps, on pourra calculer les dotations définitives, regarder sur surcoûts définitifs. Et là, tout ce sont éligibles de l'eau. Il y a quand même un petit sujet sur lequel on travaille et ça va se régler au Sénat, ce sont les collectivités qui ont fait des efforts de redressement, notamment les collectivités quorum, puisque dans les critères tels qu'il est écrit sur les sécurités aujourd'hui, il faut une dégradation sur l'épargne brute de 25%. Alors quand vous redressez votre trajectoire, vous n'avez pas la dégradation de 25%. Ce à quoi, moi, je suis assez transparent avec vous, parce que je représente aussi quelque part le gouvernement, on nous répond côté Bercy, on peut aussi l'entendre. Oui, mais d'accord, mais si vous ne dégradez pas votre épargne brute de 25%, vous pouvez vous en féliciter, et de, vous ne rentrez pas dans le cadre national du filet de sécurité, a besoin d'un aménagement pour vous, collectivité d'outre-mer, qui a un plan de redressement. Sinon, toutes les collectivités d'Hexagone, et elles existent aussi, qui font des efforts de redressement, demanderont d'être dans le filet de sécurité. Il n'a pas été conçu comme ça. Il a été conçu au niveau national comme un rattrapage pour les collectivités pénalisées. C'est une discussion qu'on aura au Sénat, du coup, côté du ministère de l'Outre-mer, vous vous doutez qu'on plaide hein, pour prendre en compte ces collectivités-là, mais il faut reconnaître que de l'autre côté, côté Bercy, il y a des arguments qui ont aussi du sens. J'ai confiance dans les sénateurs pour trouver la bonne solution. Un petit mot aussi sur ce que vous avez dit, alors sur, je vais dire sur l'octroi de mer, sur la mer, je ne sais pas si c'est chronique d'une mort annoncée. Ce qu'a dit le ministre, simplement, c'est que le président de la République nous a demandé d'y travailler. On a parlé d'une refonte, notamment sous l'angle de travailler contre la vie chère, donc c'est ça un petit peu la boussole, en étant absolument certain, et ça a été bien dit par le ministre, qu'on aura aussi, on est conscient de ce que représente l'octroi de mer en termes d'outils, que toute évolution prendra en compte les finances locales, garantira le financement des collectivités, et aussi devra prendre en compte la protection de la production locale. Donc ça, c'est un petit peu la boussole sur laquelle on travaille, c'est-à-dire la quadrature du cercle, et bien sûr c'est une approche différenciée par territoire. C'est-à-dire qu'on attend aussi que les territoires soient volontaires pour nous dire qu'ils veulent travailler sur le sujet. Et un tout petit mot sur les sujets fiscaux que vous avez mentionnés, de façon générale le PLF. Alors on peut se féliciter quand même qu'il y ait de nombreux gestes hein, dans ce PLF pour les outre-mer de façon générale. On a parlé de la défisque, le gouvernement, c'était une demande des parlementaires d'outre-mer, a pris à l'Assemblée nationale, suite à la demande des députés, la prolongation des outils de défisque jusqu'en 2029 dans les DROM, parce que c'était l'amendement parlementaire qui était comme ça, et là au Sénat, on va régler la prolongation aussi dans les COM. Donc tous les territoires pourront bénéficier de cette prolongation de la défisque jusqu'en 2029, qui va donner de la visibilité aux investisseurs dans vos territoires, c'est un geste fort. Ce qui n'interdit pas de travailler sur améliorer l'efficience. Et ça aussi, le ministre l'a dit très clairement, il veut faire de la défisque un outil au service de la création de valeur, ce qui nécessite une évaluation sans tabou pour s'assurer que ça concourt à cet objectif. Un dernier mot, j'étais beaucoup apostrophé aussi. Écoutez, c'est tout ce que je voulais quand même rappeler, dans ce PLF, il y a quand même plus de 300 millions d'euros pour la mission Outre-mer, qui était dans le projet de loi de finances. On a pris plus de 53 millions d'euros à l'Assemblée nationale, donc c'est assez considérable. Donc je pense qu'on peut dire aussi que dans cette procédure budgétaire, il y a eu une écoute pour les Outre-mer, pour les parlementaires des Outre-mer, qui est assez significative et que j'espère que vous pourrez collectivement reconnaître.
Merci. Merci beaucoup à monsieur le conseiller. Je crois que l'AMF veut intervenir.
Oui, sur deux, trois sujets. Alors déjà pour dire un mot aux représentants de la CCDOM, vous l'avez vu au travers du CCL, qu'on a la volonté de nous accompagner sur la notion de dotation et une défense, l'autonomie fiscale des collectivités. Je viens d'entendre parler des trois de mer et sa révision. Enfin, on est en train de se faire bouffer toutes les ressources propres des collectivités locales depuis quelques années. On nous parle de compensation, on ne veut pas de compensation. On veut de la liberté fiscale pour mettre en place des politiques publiques locales en responsabilité. Et voilà, quoi qu'il en soit par ailleurs. On parle là en milliards d'euros, puisque c'est peut-être la somme de toutes les centaines de millions qu'on avait là. Enfin, c'est hallucinant de s'entendre dire maintenant, et à nouveau, et encore, et sur un impôt de plus, CVAE, DH, compagnie, que c'est pas grave, on va vous compenser. Madame Gouraud nous a fait le coup dans le mandat précédent de nous dire, et j'étais en discussion avec elle de ce sujet-là, c'est pas grave, on ne vous doit pas d'autonomie fiscale, on vous doit de l'autonomie financière. 4 ans après, on voit bien ce qu'il va en être. Les autonomies financières sont mises à mal par la situation présente. L'impopularité fiscale va nous être transférée à plein. On va augmenter nos taxes sur l'eau, on va augmenter nos taxes sur les déchets, on va augmenter nos taxes foncières, et le gouvernement dira à tous nos concitoyens qu'il a baissé tous les impôts. C'est ça qui va se passer dans les prochaines années. C'est ça qui est en train de se passer. Et l'AMF, pour lui, sera très vigilant. Quand on nous dit le redressement des comptes publics entre 2014 et 2017, le gouvernement l'a amorti. Il n'y avait pas d'inflation, on prend une DGF à somme nulle. Et même la DACOM, son augmentation est absorbée par l'ensemble des communes de la collectivité nationale. Donc les autres payent en même temps. 18 milliards d'euros de DGF pour nos communes, vous faites une inflation à 7%, nous avons collectivement perdu 1 milliard 200 millions d'euros, et on nous dit, on vous met 320 millions par là, et quelques centaines de millions par là. Donc en fait, cette stabilisation de la DGF est une perte en milliards d'euros pour les collectivités locales, c'est pas autre chose, donc c'est pas une stabilisation, c'est une vraie baisse de pouvoir d'achat des collectivités, et donc il ne faut pas nous dire autre chose, ça... Le moment est compliqué et entendre, même si c'est bien dit, M. Attal il y a deux jours pour le budget, nous dire qu'il a accompagné comme jamais on a travaillé avec les collectivités locales. Notre banquier tout à l'heure nous disait, c'est pas grave en période d'inflation, j'ai connu 17%, mais les DGF, les valeurs locatives, étaient indexées sur l'inflation. Donc les collectivités, effectivement, prenaient la ressource en même temps. Donc on la prendra sur la TVA, l'État le prend sur la TVA. Les ressources de l'État n'ont jamais été aussi importantes que pour le PLF prochain. Le déficit de l'État ne sera jamais aussi important que l'année prochaine. 45% du budget, c'est ça qu'on a dit au PLF. Hein. On dit 6% du PIB, c'est 45% du budget en déficit. Et on est tous schizophrènes parce qu'on veut tous, hein, je le reconnais. Mais les collectivités sont en train de se faire asphyxier dans ce moment-là. C'est ça qu'on est en train de dire. Et que nous, pour le coup, cette inflation que nos concitoyens payent, on ne le récupère pas en recette. Et on nous dit tous les jours qu'on peut être bien content que ça se stabilise, nos recettes. Et on prend l'inflation comme les autres, et nos concitoyens aussi. Donc voilà, c'est le petit coup de gueule du moment. Je ne comprends pas.
Merci beaucoup. Quand il y a Mme Sophie Charles qui veut faire une dernière intervention, pas sous forme de question. Merci.
Excusez-moi, j'avais oublié ce point-là tout à l'heure. On avait vu le problème de la FCTVA dans le PLF 2021. Là, il y a le remplacement du critère de voirie dans la répartition de la fraction de la péréquation sur le PLF. Le problème que ça pose, et ça pose essentiellement pour les communes de Guyane, parce que dans le remplacement, il y a pour 30% du montant en fonction de la superficie, d'accord, mais pondéré avec un coefficient de densité et de population. Quand on connaît les communes de Guyane qui sont extrêmement vastes et qui ont très peu de population, je prends l'exemple sur la CCOG, on en a beaucoup, on a Maripasoula, on a Mana, on a même Saint-Laurent, parce qu'on est ville moyenne ou petite ville, et Consenti. Donc ce sont de très grandes communes, mais qui, si on enlève le critère de voirie, fait qu'on est remplacé par quelque chose qui va nous pénaliser. Et ensuite, on a un dernier point, c'est que la superficie prise en compte est plafonnée au triple de la superficie moyenne des communes appartenant à la même strate, au niveau national, bien sûr. Donc vous êtes comparé avec une commune qui fait 50 km² et qui a 13 000 habitants, alors que vous, vous en faites 5 000, c'est un peu compliqué. Et ensuite, on va doubler cette superficie pour les communes insulaires, ou située en zone de montagne. Alors, ou la Guyane est en zone insulaire, ou elle est en zone de montagne, et à mon avis, elle est ni dans l'un, ni dans l'autre. Donc nous, on n'aura pas le double vent.
Donc merci à Sophie Charles. Alors, on commence déjà à entrer dans une zone de turbulence, j'allais dire, parce qu'on est en retard sur le timing. Si tu as une question très courte, s'il te plaît.
Oussama Bin Abdallah, maire de Sada à Mayotte. En fait, par rapport à tout ce qui était présenté ici, notamment au même titre que les statuts, je pense que ça devrait être la même chose au niveau des finances. Parce que les territoires, en fonction de leur évolution institutionnelle, ne se ressemblent pas du tout. Quand je prends l'exemple de Mayotte, avec une décentralisation qui est très tardive, et madame l'a dit tout à l'heure, les dépenses publiques ne sont pas les mêmes d'une collectivité territoriale à l'autre, d'un territoire d'outre-mer à l'autre. Parce que 30% à Mayotte des dépenses publiques, 60% à métropole. Quand vous regardez aussi l'évolution à Mayotte et les difficultés du territoire que nous avons en matière de démographie, en lien avec l'immigration clandestine, tous les jours ou tous les ans, nous devons rajouter 4 classes. Et les 4 classes d'école que nous rajoutons, c'est des femmes de ménage, c'est des athènes. Nous avons aussi la problématique de l'insécurité, où nous devons assurer la sécurité des biens des personnes. Et tout cela, c'est du fonctionnement. Et j'entends tout à l'heure le monsieur qui disait que les efforts, notamment en matière de recettes, que l'État va accompagner aux collectivités, il faudra qu'on fasse des efforts, nous, de notre côté, en matière de fonctionnement. C'est quasi impossible. Impossible de notre côté. Donc, la même chose que vous faites au niveau du statut, il faudra aussi le faire au niveau d'un territoire à l'autre, parce que Mayotte risque d'en perdre beaucoup. Merci.
Alors, je pense que tout ce qui a été dit, et donc c'est un appel que je lance aux uns et aux autres, on devrait pouvoir l'intégrer dans la motion qui sera votée à la fin du congrès. Donc je vous invite à nous faire part de vos propositions pour qu'on puisse les synthétiser dans cette motion. Alors, tout le monde connaît le proverbe, ventre affamé n'a pas d'oreille. Et je vois que les oreilles se ferment au fur et à mesure parce que les ventres sont de plus en plus affamés. Donc, M. Didier Laguerre, je vais vous passer le micro pour que vous invitiez vos invités à déjeuner.
Ben vous venez de faire. Merci de votre présence, merci de votre participation. Et nous vous offrons un petit cocktail déjeunatoire dans les jardins du parc Aimé Césaire. Et j'en profite pour dire que le bâtiment qui se trouve juste à côté est le symbole de la traduction de difficultés financières sur la réalisation des investissements. C'est le symbole même de cette réalité-là. Ça se traduit par un bâtiment qui n'est pas loué, qui n'est pas un bâtiment abandonné, mais qui est simplement un chantier que nous avons du mal à terminer depuis 11 ans.
Donc merci à tous les trois pour vos applaudissements et bon appétit à tous.
This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.